Le talon de fer, chapitre 25, les terroristes. C'est seulement plusieurs semaines après notre retour à New York qu'Ernest et moi pûmes apprécier toute l'étendue du désastre qui venait de frapper la cause. La situation était amère et sanglante. En divers endroits, dispersés dans tout le pays, il y avait eu des révoltés et des massacres d'esclaves. La liste des martyrs s'accroissait rapidement. D'innombrables exécutions avaient lieu un peu partout. Les montagnes et les contrées désertes, regorgées de proscrits et de réfugiés, traquaient sans merci. Nos propres refuges étaient bondés de camarades dont la tête était mise à prix. Grâce aux renseignements fournis par les espions, plusieurs de nos asiles furent envahis par les soldats du Talon de Fer. Un grand nombre de nos amis, découragés et désespérés par le recul de leurs espérances, ripostaient par une tactique terroriste. Il surgissait aussi des organisations de combat qui n'étaient pas affiliées aux nôtres et qui nous donnèrent beaucoup de mal. Note, les annales de cet intermède de désespoir sont écrites avec du sang. La vengeance était le motif dominant. Les membres des organisations terroristes ne se souciaient guère de leur vie et n'espéraient rien de l'avenir. Les Danites, dont le nom était emprunté aux anges vengeurs de la mythologie des Mormons, prirent renaissance dans les montagnes du Great West et se répandirent sur toute la côte du Pacifique, du Panama à l'Alaska. Les Walkyries étaient une organisation de femmes et la plus terrible de toutes. Nulle n'y était admise si elle n'avait pas eu de proches parents assassinés par l'oligarchie. Elles avaient la cruauté de torturer leurs prisonniers jusqu'à la mort. Une autre fameuse organisation féminine était celle des veuves de guerre. Les Berserkers, guerriers invulnérables de la mythologie scandinave, formaient un groupe frère de celui des Valkyries. Il était composé d'hommes qui n'attachaient aucune valeur à leur vie. C'est eux qui détruisirent complètement la grande cité des mercenaires appelée Bellona, avec sa population de plus de 100 000 âmes. Les Bedlamites et les Heldamites étaient des associations jumelles d'esclaves. Une nouvelle secte religieuse, qui d'ailleurs ne prospéra pas longtemps, s'appelait le Courroux de Dieu. Ces groupes de gens terriblement sérieux prenaient les noms les plus fantaisistes, entre autres les cœurs saignants, les fils de l'aube, les étoiles matutinales, les flamands, les triples triangles, les trois barres, les ruboniques, les vengeurs, les apaches et les érébusites. Fin de la note. Ces égarés, tout en prodiguant follement leur propre vie, faisaient souvent avorter nos plans et retarder notre reconstitution. Et sur toute cette agitation, piétinait le Talon de Fer, marchant impassible vers son but, secouant tout le tissu social, émondant les mercenaires, les castes ouvrières et les services secrets, pour en chasser les camarades, punissant sans haine et sans pitié, acceptant toutes les représailles et remplissant les vides aussi vite qu'ils se produisaient dans sa ligne de combat. Parallèlement, Ernest et les autres chefs travaillaient ferme à réorganiser les forces de la Révolution. On comprendra l'ampleur de cette tâche en tenant compte de... Note. Ici finit le manuscrit Everard. Il s'arrête brusquement au milieu d'une phrase. Avis dut être informée de l'arrivée des mercenaires, puisqu'elle eut le temps de mettre le manuscrit en sûreté avant sa fuite ou sa capture. Il est regrettable qu'elle n'ait pas survécu pour l'achever, sans quoi elle aurait certainement éclairci le mystère qui, depuis 700 ans, enveloppe l'exécution d'Ernest Everard. Fin de la note.